Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verdusier.
C'est parti.
Le fait d'être portée sur la chose oblige une femme à mille précautions comme un secret national. Pour les hommes, par contre, il y a le droit d'avoir une sexualité sans que cela constitue un aspect controversé de leur existence, écrit la Canadienne Sarah Barmack dans son essai « Jouir », qui parle de droit au plaisir. Alors cette semaine, on va parler de désir féminin, de fossé libidinal, d'hormones et de Viagra féminin avec Pauline. Salut !
Salut !
Ça va ?
Ouais, je suis assez contente de parler de ce sujet, surtout après les injonctions qu'on a pu entendre pendant le confinement sur le fait de profiter de la situation pour faire l'amour ou pour développer sa vie sexuelle, alors que honnêtement, c'était pas évident si on était en famille ou en télétravail, voilà.
Ouais, le tue-l'amour.
Et toi ?
Oui, ça va, écoute, je suis allée me mettre au vert post-confinement. Et alors, du côté des news féministes, il y a des bonnes et de moins bonnes nouvelles. Du côté des bonnes nouvelles, la famille d'Adama Traoré continue de charrier les foules, donc c'est super.
Nous attendons Emmanuel Macron demain, bien évidemment, dans son discours. On demande à ce qu'il protège son peuple. Il est garant de notre sécurité. Il est garant à ce qu'on puisse vivre en tranquillité.
Et l'essai d'Iris Bray, Le regard féminin, dont on a déjà parlé ici, qui a été publié aux éditions de L'Olivier, va devenir un documentaire produit par Totem Film. Donc ça, c'est chouette. Du côté des moins bonnes nouvelles, les infirmières se font violenter par la police.
On vient manifester et on nous gaze. On nous gaze. On asphyxie déjà dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Ça veut dire que même quand on vient vous dire au secours, on va pas bien, vous nous rajoutez des gaz pour qu'on se taise. C'est toute cette symbolique que ça a pris dans ma tête.
Et la chanteuse Aya Nakamura a reçu une salve de tweets racistes et sexistes en réponse à une photo qu'elle avait postée sur les réseaux sociaux. Voilà, on ne les applaudit pas.
Non.
Alors, de quoi est-ce qu'on parle cette semaine ?
Oui, alors le sujet brûlant ou pas du jour, c'est donc la libido. Donc, on va parler de libido au sens médical et biologique, entre guillemets, donc c'est-à-dire de désir sexuel. Mais on va aussi en parler dans sa dimension sociale et culturelle, comme on fait souvent ici. Donc, on a eu envie de questionner la libido d'un point de vue scientifique, donc pourquoi elle varie, par exemple, et aussi du point de vue des représentations dans les discours dominants sur le désir, notamment, évidemment, au prisme du genre. Et parce que, comme d'habitude, en fait, ça raconte une longue histoire de préjugés qui entourent les sexualités. On va détricoter. Et on va commencer par un petit rappel historique. Donc, c'est quoi l'histoire du désir sexuel des femmes, Clémentine ?
Mercator, raconte-nous une histoire !
Alors, incroyable mais vrai, historiquement, on a d'abord longtemps dit et cru que les femmes avaient plus de désir sexuel que les hommes, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Évidemment, ça a longtemps été considéré comme un problème. Bah, à l'origine de toute histoire, il y a d'abord Ève, tentatrice dans la Bible.
Dear Eve, is it true that you cannot eat the fruit from the tree of knowledge?
Ensuite, dans la Rome antique et puis au Moyen-Âge, il a toujours été clair que les femmes étaient dangereuses à cause de leur désir débordant. D'ailleurs, le terme latin pour la passion, c'est libido, qui est associé au féminin. Et lorsqu'il y avait infidélité dans un couple, c'était d'abord la femme qui était responsable. Ensuite, dans l'Europe des Francs et des Mérovingiens, des lois punitives venaient encadrer toute révolte possible de la libido chez les femmes, encore une fois. D'ailleurs, chez les Visigoths, pour donner un exemple, une veuve qui forniquait risquait de perdre tous ses biens.
Game over.
Donc ça fait quand même cher le quickie. Et chez les Burgondes, une femme mariée adultère devenait ainsi intouchable, c'est-à-dire exclue de la communauté, puis elle était ensuite condamnée à être étranglée à mort. Voilà pour le programme.
Sympa. Oui, donc ensuite, il y a eu un renversement dans l'histoire, peut-être qu'on connaît mieux, avec l'idée d'une frigidité féminine généralisée.
Nous y voilà.
Je déteste ce mot, en plus. À l'époque victorienne, donc là, le désir est passé du côté des hommes, qui sont censés en être les dépositaires, et les femmes incarneraient naturellement, avec de gros guillemets, la vertu, la retenue et la pudeur, bien sûr. Et un des pontes de la gynécologie en Angleterre a écrit en 1862 que la majorité des femmes, heureusement pour elles, ne sont pas troublées par des sentiments sexuels de quelque nature que ce soit. Ouf ! Et ben voilà.
Tout va bien.
Voilà.
Oui, et d'ailleurs, en 1886, un traité a été publié, toujours sur cette lancée, un traité qui parle de nymphomanie sous le titre « Traité de la fureur utérine ». Donc déjà, ça en dit long.
My name is Joe. Hi, Joe. Hi, Joe. And I'm a nymphomaniac.
Ça, c'est le docteur MDT de Bienville qui l'a publié. Le texte est croustillant, on va en donner un petit aperçu. Il explique que la femme désirante est une anomalie et qu'on trouve ce symptôme inquiétant, donc celui de la nymphomanie, je cite, « chez les jeunes filles de tempérament sanguin et à l'imagination ardente, chez les jeunes femmes mariées que de faibles époux ne peuvent satisfaire, ou chez les veuves lascives ». Je le cite encore, le dévergondage de ses sens a chassé toute parcelle de pudeur. Donc ça, encore une fois, c'est chez la femme lubrique. Il explique que c'est une maladie spécifiquement féminine, hein, n'est-ce pas? Les hommes ne peuvent pas être nymphomanes. Que c'est également une maladie mystérieuse qui aurait son origine soit dans l'utérus, soit pourquoi pas dans l'encéphale, donc dans le cerveau, et qu'elle provoquerait des accès de folie furieuse. Voilà.
Et par ailleurs, dans l'histoire des représentations du désir des femmes, ça n'échappe évidemment pas à certains stéréotypes racistes sur lesquels tu as pu lire.
Oui, effectivement, là on a parlé des femmes vues comme dépositaires de la vertu et de la pudeur, mais il y a vraiment eu une construction très binaire des femmes blanches par rapport aux femmes noires et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a longtemps opposé donc femmes blanches et étrangères, je mets des guillemets, ou autochtones, donc une certaine vision de l'altérité. Donc pour ce faire, on a longtemps exotisé la libido des personnes non blanches qui étaient associées à la hantise de la prostitution. On représentait les femmes autochtones comme tentatrices, bestiales, lubriques. Et d'ailleurs, c'était vraiment spécifié sur les tracts pseudo-scientifiques qui étaient distribués en Europe, donc à partir du XVIe siècle, à partir de la colonisation européenne. Et les esclaves noires, notamment, étaient décrites comme ayant, par exemple, des fesses plus larges et des lèvres plus longues. Donc, et cela étant vu comme le signe d'un appétit sexuel dévorant. D'ailleurs, on se souvient de la Vénus noire. C'était Sarji Bartman, une femme sud-africaine qui était réduite en esclavage et qui a été ensuite exhibée en Europe, soi-disant à cause de la taille de son postérieur notamment.
La France vient de réparer une injustice de l'histoire. Les restes de la Vénus Hottentote vont en effet être restitués à l'Afrique du Sud. La proposition de loi a été votée à l'unanimité aujourd'hui au Sénat. Cette jeune femme avait été exhibée comme un animal de foie en Grande-Bretagne et en France au 19e siècle. Sa dépouille mortel était conservé jusqu'alors au musée de l'homme comme un objet de science.
C'est aussi le mythe de ce qu'on a appelé la Jezebel, qui est un personnage de mulâtre tragique ou de mulâtresse tragique qui supposément va séduire les hommes blancs, notamment les esclavagistes, pour les détourner de leurs femmes blanches supposément vertueuses. Voilà, moi c'est aussi quelque chose dont je parle dans le livre que je viens d'écrire avec Caroline Michel, qui a encore cours aujourd'hui, c'est-à-dire l'exotisation, encore une fois, des personnes non blanches que l'on va traiter de tigresse, de geisha, etc. Mais on y reviendra. Voilà. Et alors ensuite, on arrive à la psychanalyse de Freud.
Oui, en psychanalyse, Freud, de son côté, a parlé de l'énergie des pulsions sexuelles dans leur dimension psychique, et il a théorisé les différents stades d'évolution de la libido. On appelle ça l'économie libidinale. C'est des stades qu'on connaît bien, oral, anal, phallique, génital, etc. Et il dit aussi que l'identité des femmes va se centrer autour du supposé manque de pénis qu'elles n'ont pas.
C'est cela, oui, oui, oui.
Et il dit « La libido de la fille glisse le long de l'équation symbolique tracée d'avance, pénis égale enfant. » Dans une nouvelle position, la fille abandonne le souhait du pénis pour y mettre à la place le souhait d'un enfant.
Waouh.
Donc c'est un peu réducteur, mais c'est ce qu'il a écrit.
Oui, je me demande moi-même si je ne serais pas restée coincée dans un de ces stades. Bref, alors où en est-on aujourd'hui de la libido, et notamment de la libido féminine, dans la science et dans les représentations? On peut faire en tout cas un petit point sur les études qui existent en la matière et qui souvent mettent en lumière un écart assez genré, on n'est pas surpris, entre hommes cis et femmes cis, notamment dans les relations hétérosexuelles. D'ailleurs, on a déjà consacré un épisode à ce qu'on appelle le fossé orgasmique, qui désigne le fait que les femmes hétérosexuelles déclarent jouir moins souvent que les hommes hétéros. Et alors, c'est ce qu'on va se demander dans cet épisode, on pourrait aussi dire qu'il y a peut-être un fossé libidinal, Pauline.
Oui, donc c'est pas évident de trouver des chiffres précis sur le sujet, mais en gros, selon les études, les troubles du désir concernent entre 10 et 50% des femmes, donc c'est un spectre assez large.
Ouais. Tous les hommes et toutes les femmes connaîtront au moins une fois dans leur vie, et souvent plusieurs fois, des périodes où leur libido est absente ou faible. Et c'est normal.
Et pour les hommes, c'est plutôt 30% maximum. Mais après, il y a un sujet aussi de définition et de limite, en fait, entre ce qui est considéré comme normal ou pathologique. Et évidemment, la définition, parfois aussi, elle varie selon des stéréotypes de genre, selon qu'on est homme ou femme. Donc, en gros, c'est ça. Mais déjà, on voit que ça concerne aussi les hommes, la baisse de libido.
C'est bien de le souligner.
Oui.
Contrairement aux idées reçues.
Exactement. Et le problème n'est pas que les femmes ont moins de désir par essence, évidemment, c'est qu'en fait, ce désir, il subit aussi des variations différentes ou peut-être qu'il est plus sensible aussi à des facteurs extérieurs. Donc, les recherches scientifiques montrent que la libido des femmes est plus « volatile », entre guillemets, dans le contexte du couple hétérosexuel. Donc, par exemple, le chercheur Dietrich Schlussmann a observé que le désir des femmes décline bien plus que celui des hommes après plusieurs années de vie commune. Et en fait, en moyenne, apparemment, le désir des meufs commence à baisser après un an de vie commune.
Waouh.
Celui des hommes reste assez constant. Et il y a aussi la chercheuse Laurie Brotteau qui a montré que la durée d'une relation, en fait, c'est l'un des facteurs qui pèse le plus dans la chute de la libido des femmes.
And particularly in the area of sexuality and sexual response, there are so many stereotypes, myths, misconceptions.
Ouais, raison de plus pour s'en occuper, quoi.
Exact. Et dans le sens où notre désir sexuel, en fait, il est aussi fort que les désirs masculins en début de relation, mais il va décroître beaucoup plus vite.
On se demande pourquoi.
Voilà, mais apparemment, ce désir, en fait, se maintient dans le temps si les partenaires ne vivent pas ensemble.
Ah ouais.
Et ça fait dire à certains chercheurs que notre libido est peut-être plus sensible à la nouveauté et que la monogamie ne nous convient pas. L'idée selon laquelle les femmes ont envie de se caser se vérifie plus trop, mais en vérité c'est totalement multifactoriel. Selon l'autrice anglaise Tracy Cox, quel est le patronyme parfait, donc femme qui écrit sur le sexe, elle dit « Women don't have low libido, they are just bored ». Donc les femmes n'ont pas de libido faible, elles s'ennuient simplement. Mais donc voilà, il n'y a pas que la question de la longévité du couple qui joue, il y en a d'autres et on va en parler.
Oui, en effet, il y a tout un tas d'explications sociales. D'ailleurs, on parlera ensuite du physiologique un peu plus loin. La chroniqueuse Maya Mazorette en a parlé dans un article du Monde en citant le dernier livre du sociologue Jean-Claude Kaufmann donc, qui vient de sortir et qui s'appelle « Pas envie ce soir, le consentement dans le couple ». Voilà, le sujet tombe à pic. Et dans lequel il parle du poids des tâches domestiques et de la double journée, puisque le positionnement de soins à l'autre, y compris dans la sexualité, fait qu'on est souvent épuisé. Donc il y a effectivement tout cet aspect charge mentale et care qui se retrouve dans nos sexualités et qui peut affecter la libido. Et ce que lui raconte, c'est que ça a aussi des conséquences très graves pour la question des violences sexuelles. Le fait de se forcer, c'est comme ça qu'on peut parler, en tout cas, de viol conjugal. On écoute.
Des viols ont lieu dans le contexte conjugal. Et ce chiffre est sans doute sous-évalué. En plus, parce qu'il est calculé à partir des plaintes.
Par ailleurs, il ne faut pas dénigrer non plus le rôle du stress, du cycle menstruel, de l'anxiété, de la douleur, par exemple des règles ou de l'endométriose si on en a, de la fatigue, des difficultés relationnelles qui évidemment vont aussi affecter la libido.
Et c'est comme pour les mycoses, en fait, il y a trop de facteurs.
C'est ça. Et c'est pas un truc qui est dans la tête des femmes, genre elles ont pas envie par nature. C'est vraiment c'est une conjonction de facteurs. Plus l'injonction à la disponibilité sexuelle des femmes, en fait, voudrait que la femme ait envie, quelle que soit la situation, pour répondre à la libido masculine qui va supposément de soi, et donc on va se complaire un peu dans ce schéma, alors qu'en fait il est totalement faux, y compris du côté masculin, alors que il y a tellement d'hommes en fait qui ont aussi des troubles de la libido mais qui préfèrent ne pas en parler, ou dans l'idée que l'absence de sexualité serait presque un déclassement social. Donc ça, c'est une réalité aussi.
Oui, tout ça, ça reconduit des stéréotypes et des préjugés, donc voilà, c'est un cercle vicieux. Et je pense qu'on peut aussi parler de la corrélation sexe égale couple égale amour, puisque ça rejoint donc l'injonction à la sexualité dans le couple comme étant le signe d'un bon fonctionnement, et donc c'est quelque chose qui culpabilise tout le monde. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a calqué une vision assez fantasmée de la normalité qui est socialement construite. L'idée d'un rythme auquel il faudrait avoir absolument envie de faire l'amour, qui est souvent donc calqué sur les modèles de genre masculin qui sont eux-mêmes donc très stéréotypés, on l'a dit, alors que la sexualité pour beaucoup de gens n'est pas que pénétrative, n'est pas forcément linéaire, est parfois en sommeil, est parfois inactive, voilà. Enfin, elle est vraiment protéiforme en tout cas.
Ouais. Et évidemment, il y a aussi des spécificités dans les représentations de la libido selon les origines, les corps, les pratiques de chacune. Donc par exemple, aujourd'hui, en fait, on retrouve toujours l'imaginaire raciste selon lequel les personnes noires, par exemple, ou non blanches, seraient supposément plus sensuelles ou plus performantes sexuellement.
Oui, auraient des compétences naturelles en la matière.
Voilà, et c'est un héritage raciste de ces conceptions.
Tous les fantasmes qui existent sur les femmes noires, quand on nous dit « Ah mais vous, les blagues, vous êtes trop chaudes », ou quand on nous dit « féline, panthère, gazelle », qu'on nous ramène toujours aux animaux. Et ça, ça commence très tôt. Moi, les premières fois où j'ai entendu des choses comme ça, j'avais 14 ans, j'étais même pas encore active sexuellement. Donc, se retrouver avec des hommes de l'âge de mon père qui me disent « Ah, toi, tu dois trop aimer le sexe », c'est hyper traumatisant. Et ça, en fait, c'est quelque chose de partagé par beaucoup de femmes noires.
Il y a aussi le thème de la grossophobie, donc l'image des femmes grosses qui seraient ultra libidineuses. Ça, on a pu lire dans, par exemple, le livre de Gabrielle Dédier qui en parle. Il y a aussi la question de la libido chez les femmes lesbiennes, avec le fameux mythe de la bed death, donc la mort au lit ou la mort du lit.
Those first 7 days of that relationship is right. So intense. And you're just like, all of these feelings. And then when week 2 comes along, you know, well, you hit that part in the relationship where you're like an old, married, retired couple.
Donc, est-ce que c'est un vrai truc? Bon, en fait, ce terme, il a été théorisé dans les années 80 par des chercheurs, et depuis, il a été largement critiqué comme faisant partie du cliché lesbophobe qui dirait que les lesbiennes ne font pas vraiment l'amour, ou qu'elles sont moins sexuelles. Ce qui est absolument débile. Et on a ensuite dit que ce mythe aussi avait un effet négatif en fait sur la perception des personnes concernées, mais j'ai l'impression que c'est quand même devenu un peu un sujet de blague et que le terme il a été réapproprié d'une façon communautaire dans un sens ironique. Voilà, mais ça n'empêche pas que ça véhicule certains clichés. Par exemple, dans la série The Bold Type, il y a le personnage de Jane qui couche plus avec son copain et ses copines lui disent « Ah, mais t'es dans une bed death hétérosexuelle ». C'était un peu chelou comme blague. Voilà. Et par ailleurs, il faut rappeler que statistiquement, les femmes lesbiennes déclarent jouir beaucoup plus souvent que les femmes hétérosexuelles. Ne l'oublions pas.
Death on period. Oui, comme par hasard, c'est un cliché qu'on entend beaucoup moins que le reste. On se demande pourquoi.
Ouais.
Il y a aussi un autre stéréotype qui est assez nocif pour les personnes LGBT+, qui concerne les femmes qui sont bisexuelles, qui seraient soi-disant lubriques, infidèles, etc., qui auraient accès donc à tous les partenaires possibles et imaginables.
Je comprends pas non plus d'où ça vient, le concept de oui, les bisexuels, on passe notre temps à Mougou, on est là, si c'est pas pour Mougou les gens, c'est pour Mougou garde des gens, c'est pour cocococococon. C'est un cliché. Arrêtez de prendre les clichés pour charger sur vos têtes. Arrêtez de prendre les clichés pour des vérités générales.
Ce n'est pas vrai. Et je pense qu'il faut encore et toujours souligner que l'asexualité peut être une orientation sexuelle, pas une pathologie ou un problème, en tout cas pour les personnes qui s'identifient comme asexuelles. Et je pense que le problème, justement, est très souvent un problème d'identification, puisque quand on est asexuel, souvent, on ne le sait pas, ou ça prend du temps pour s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'on peut dire de la période qu'on vient de passer ?
Oui, moi j'ai eu l'impression que pendant le confinement, en fait, beaucoup de gens ont eu la libido en berne, et d'ailleurs, les études le montrent, enfin, il y a une étude IFOP qui le montre. Mm. Cependant, en même temps, on lisait des discours qui disaient que c'était aussi le moment de forniquer ou d'improviser des pique-niques dans son salon qui finissent les quatre fers en l'air, enfin, en tout cas, de lire ce genre de choses, même si on a aussi dédramatisé la baisse de libido. Mais en tout cas, ça me permet de parler, en fait, des injonctions paradoxales. Donc en fait, dans le thème de la libido, il faut à la fois avoir envie de baiser et en même temps, une libido trop prononcée des femmes, elle est vilipendée, le slut-shaming, etc. Mais en même temps, quand la libido féminine est plus erratique, elle va être pathologisée sur le mode de la fatalité, tandis que celle des hommes est présentée comme irrépressible, mécanique, etc. Mmh. Ça, c'est vraiment une lecture binaire et enfermante du désir, c'est-à-dire qu'il faudrait à la fois être disponible sexuellement pour les hommes, et en même temps, quand notre désir à nous est en berne et qu'on en souffre, c'est pas considéré comme un réel problème, mmh. parce que ça ferait presque partie de notre supposée nature. Par exemple, on ne compte plus les témoignages de femmes qui parlent de la baisse de leur libido à leur gynécologue depuis qu'elles prennent la pilule et qui se voient répondre comme si c'était un non-sujet.
Comme si c'était la norme.
C'est ça. Alors que les problèmes d'érection masculine, qui d'ailleurs ne sont pas forcément liés au désir, vont être traités comme un truc très très sérieux. Mmh. Et pour donner une idée de ce double standard, en fait, le Viagra masculin a été commercialisé au moment où on commençait à peine à connaître l'anatomie du clitoris, donc c'est dire le décalage. Voilà.
C'est un scandale.
Oui, et je pense que c'est le moment de parler justement du Viagra, en tout cas du Viagra masculin et d'un Viagra féminin, puisque dans les années 90, c'est le premier médicament mis en vente pour traiter les dysfonctions érectiles, on s'en souvient.
Viagra, America's most prescribed ED treatment, can help you enjoy a more satisfying sexual experience.
Et ce dont on parle moins, y compris aujourd'hui, c'est donc d'un possible Viagra féminin, ou en tout cas des tentatives de certains laboratoires pharmaceutiques pour mettre au point des traitements censés répondre aux troubles du désir sexuel féminin, entre guillemets. Alors il faut savoir que depuis quelques années, plusieurs médicaments ont été testés dans ce sens aux États-Unis. On pourrait d'ailleurs saluer le geste, mais pour le moment, c'est plutôt un échec, c'est même assez dangereux pour notre santé. Surtout qu'en fait, le problème, ce serait plutôt aussi les partenaires. Parfois, peut-être qu'une pilule ne suffit pas. En tout cas, en 2015, l'Agence américaine du médicament a autorisé la mise en vente sur le marché de la flibanserine, qui a été vendue sous le nom de Adi.
This quest, you know, to get a female sex pill, you know, something comparable to what men have had, yeah, has been going on for years and years and years.
Donc c'est une petite pilule rose avec un bon marketing genré qui est censée agir au niveau du cerveau sur les neurotransmetteurs impliqués dans le circuit du plaisir. Donc la campagne de communication du laboratoire Sprout s'est appuyée sur des arguments féministes, sans surprise, pour faire la promo de son médicament. Sauf qu'en fait, il s'est avéré que les effets secondaires sont importants. On a parlé de vertige, de risque d'hypotension, d'évanouissement, donc c'est quand même pas rien. Et les études ont montré que l'équilibre entre les bénéfices et les risques n'était pas terrible, voire ne fonctionnait pas du tout chez 9 femmes sur 10, ce qui est quand même énorme. Par ailleurs, l'agence du médicament avait déjà refusé sa mise sur le marché et a été ensuite accusée d'avoir cédé à la pression du lobby pharmaceutique. Voilà.
Ouais, ça donne pas très envie.
Non.
Et on peut se poser aussi la question de pourquoi en fait les laboratoires planchent sur un traitement qui s'attaque à la composante neuronale et pas physiologique du désir des femmes. On a parlé de la flibanserine comme d'un Viagra féminin, mais en fait ça n'a rien à voir, puisque le Viagra il aide les hommes qui veulent avoir des relations sexuelles et qui ont des difficultés érectile, on va dire. Et à l'inverse, cette molécule-là, elle est censée modifier la chimie du cerveau chez les femmes pour les aider à vouloir avoir des relations sexuelles, pour résoudre le fossé libidinal entre hommes et femmes, parce qu'on considère que ce sont les soi-disant besoins de l'homme qui sont normaux et la libido en berne des femmes qui ne l'est pas. Donc ça, ça pose question. Et c'est ce vouloir qui est un peu le nerf de la guerre. Mais est-ce qu'on a envie d'avoir envie? Est-ce que c'est mal de ne pas avoir envie? Et on peut douter que en fait, sans identifier les causes possibles de l'absence de désir, ce médicament soit efficace.
Surtout, induire chimiquement cette envie, est-ce que c'est encore du consentement? Enfin voilà, toute cette zone-là est quand même très floue. Et ça interroge aussi la manière dont on diagnostique un trouble du désir. À partir de quand est-ce qu'on souffre de troubles? Les docteurs Florence Cour et Mireille Bonnierbal disent d'ailleurs quelque chose d'intéressant dans leur article à ce sujet. Je les cite, « Les troubles du désir sexuel sont l'une des dysfonctions sexuelles les plus difficiles à traiter à cause de la difficulté du repérage des limites entre le normal et le pathologique. Sans désir, la femme ne peut pas assimiler l'absence de sexualité à une souffrance. » En revanche, ce sont souvent les conséquences de cette situation qui l'amèneront à consulter. La peur de perdre son partenaire, la crainte de ne pas être comme les autres dans un contexte social très normatif, sont les motifs les plus fréquents de consultation, écrivent-elles.
Oui, donc on parle de trouble du désir sexuel hypoactif quand ça induit vraiment une souffrance chez la personne. Mais parfois, on voit bien que les causes de cette souffrance ne sont peut-être pas forcément liées à la baisse de libido en elle-même, mais plutôt à l'environnement également. Et donc
pression.
Ouais. Et dans certains cas, l'absence de désir sexuel n'est pas mal vécue. Par exemple, les personnes asexuelles qui n'en ressentent pas, ce n'est pas considéré comme un problème. Finalement, on peut se demander si la prise de flibanserine, c'est pas encore une charge sexuelle de plus pour les femmes qui devraient avaler une pilule pour se conformer au modèle masculin considéré comme normal, plutôt que d'interroger donc les facteurs extérieurs, par exemple une relation toxique, l'anxiété, le poids des normes, et on essaie de réparer la libido en fait au lieu d'examiner la relation, la qualité des rapports, etc.
C'est un peu comme l'antidépresseur, le Zyban pour l'arrêt du tabac. Là, l'antidépresseur, on a trouvé qu'il y avait une amélioration chez les femmes qui avaient des baisses de libido. Sauf qu'il y a quand même des effets secondaires importants, entre autres de baisse de tension, de somnolence. Bon, alors le laboratoire dit qu'il n'y a pas de problème pour conduire, mais enfin quand même, s'il y a somnolence, baisse de la tension, malaise, pour des résultats qui sont quand même pas extraordinaires. Je veux dire, par rapport au placebo, on n'a pas comme ça une libido merveilleuse. Et en plus, ça se prend en continu. Donc c'est tout le temps. Et avec des résultats qui sont obtenus qu'au bout de 4 ou 5 mois.
Oui, et peut-être qu'en face, les hommes aussi peuvent examiner la nature de leur désir. Mais en tout cas, c'est vrai que ces représentations ont des conséquences directes sur nos vies. D'ailleurs, on pourrait se dire que les fondements même de l'invention du Viagra sont contestables parce qu'effectivement, ils valorisent une vision purement physique de ce qu'on appelle la panne sexuelle. Donc c'est une représentation érectocentrique de la sexualité, c'est-à-dire centrée autour de l'érection d'un pénis, alors même que la pénétration n'est pas toujours le mode de stimulation le plus adapté au plaisir des femmes, bien au contraire, comme le rappelle l'IFOP en conclusion d'une étude sur le Viagra.
Oui, et il y a encore un autre traitement pour la libido féminine qui a été approuvé aux États-Unis. Donc c'est voilà, mais c'est pas mieux. Donc ça se présente sous la forme d'un stylo injectable avant un rapport sexuel. Donc ça fait un peu peur.
Oula.
C'est
On se croirait dans un James Bond.
Ouais. Donc c'est le Vilezy.
So, you've been ghosted by your sexual desire. Now's the time to help take it back. But you want to know how to take Vilezy. Ready? At least 45 minutes before anticipated sexual activity.
Qui contient une molécule reproduisant l'action d'une hormone impliquée dans le désir sexuel. Mais là, pareil, un essai clinique a conclu qu'il ne permettait pas une augmentation du nombre de rapports sexuels satisfaisants et qu'en plus, il entraînait des effets secondaires assez fréquents, comme des nausées, par exemple, qui concernaient une grosse partie de l'échantillon qui a testé le truc. Mmh. Là, super. Et sa commercialisation a fait l'objet de critiques, notamment de l'organisation indépendant National Women's Health Network, qui appelle les femmes à ne pas l'utiliser parce qu'on n'a pas assez d'informations dessus. Et d'ailleurs, cet organisme avait sonné la même alerte concernant la flibanserine en disant que les femmes, en fait, méritent mieux que d'avaler des trucs dont on connaît encore pas très bien les effets.
Oui, donc les femmes américaines sont un peu les cobayes, là, pour l'instant, de toutes ces drogues. Et justement, puisqu'on parle de la composante physiologique de la libido, on ne peut pas ne pas évoquer le sujet des hormones qui jouent un rôle là-dedans, même si tout n'est pas imputable aux hormones, hein, n'est-ce pas ? De même que tous les comportements masculins, y compris les plus toxiques, ne se limitent pas à l'explication « c'est la testostérone ». Voilà, merci. Mais en tout cas, il y a bien des chercheurs et des chercheuses qui ont travaillé sur un aphrodisiaque agissant sur la dimension physique de l'excitation sexuelle féminine. Ils et elles ont en fait associé le même principe actif que celui du Viagra à un peu de testostérone pour une prise ponctuelle avant un rapport sexuel. Donc c'est censé augmenter l'afflux sanguin dans les organes génitaux et la lubrification. Une étude a été menée sur 500 femmes et elle a montré que ce traitement, qui s'appelle le Librido, augmenter significativement le nombre de rapports sexuels satisfaisants sur une période donnée. On dirait d'ailleurs que c'est presque l'un des seuls essais qui donne des résultats concluants. Et pourtant, sa commercialisation n'a pas encore été approuvée, alors que celle des autres médicaments contestés l'a été.
Ouais.
Tiens, tiens.
C'est à n'y rien comprendre. Et c'est intéressant de parler de la physiologie du désir, Et c'est peut-être là, en fait, qu'on pourrait donner un coup de pouce aux femmes et aux différentes personnes concernées. Parce qu'en fait, parfois, on peut souffrir d'une baisse de libido dans un contexte où on est bien, on va bien, on a juste envie d'avoir envie. Alors, dans ce cas-là, on peut imaginer qu'on pourrait effectivement aider un peu du côté physiologique. Et dans cette veine, des personnes qui militent dans le domaine de la santé sexuelle ont rappelé le rôle de la testostérone dans le désir sexuel et demandent à ce que son usage soit démocratisé pour les femmes cis qui souhaitent en prendre et qui ont des taux de testo beaucoup plus faibles que les hommes cis. Mmh. La testostérone a des effets positifs sur la libido, visiblement, et même contre l'anxiété, contre les douleurs des règles, par exemple. On a pu lire en fait des témoignages sur le sujet de femmes cis et d'hommes trans qui expliquent que le fait de s'en injecter a changé leur vie sexuelle. Ça fait un peu peur à tout le monde, parce que si les femmes se mettent à prendre de la testostérone, est-ce que ce sont encore des femmes ? Enfin, c'est l'épouvantail qu'on agite. Et d'ailleurs, dans le domaine sportif, c'est pareil. Il me semble qu'il y a des femmes qui sont critiquées parce qu'elles ont des trop hauts niveaux de testostérone, ou en tout cas, elles ne sont pas considérées comme dans la norme, ce qui est un peu hallucinant.
Je ne suis pas une idiote. Je ne prendrai pas de médicaments. Je suis une athlète propre, je ne triche pas, qu'il s'occupe plutôt du dopage.
Pas dopé, mais hyperandrogène. Voilà ce qui ne passe pas. Avec sa silhouette masculine et sa domination sans partage sur le 800 mètres, la Sud-Africaine dérange. Et ce n'est pas la seule.
Oui, puis surtout, on a tendance à oublier que la pilule contraceptive aussi, ce sont des hormones, voilà, qui modifient déjà... Bah oui, le taux d'hormones que les femmes ont dans le sang et dans le corps. Donc pourquoi est-ce que la testostérone serait encore plus tabou, sachant que les femmes en ont déjà à la base. Pour prendre l'exemple de Fanny Godbarge, qui est à la tête du collectif Cyclique et qui en a parlé, puisqu'elle-même s'injecte des petites doses de testostérone pour soulager l'endométriose dont elle souffre.
L'apéro testo, c'est on se retrouve avec les potes et on s'injecte de la testostérone. Et moi, je suis une meuf cis, mais je m'injecte de la testostérone pour lutter contre mes douleurs de l'endométriose.
Et elle a expliqué que, effectivement, ça provoquait une hausse de sa libido. On peut aussi citer Juliette Drouard, qui a organisé le festival Sortir de l'hétérosexualité à l'automne dernier, qui a publié une tribune sur le site Chic intitulée « À quand une pilule de testostérone microdosée pour les femmes ?» Et je pense que la question est vraiment essentielle à se poser. Donc je cite le texte. « Évidemment, on renâcle aujourd'hui à produire des traitements pour les femmes à base de testostérone, alors qu'ils auraient leur intérêt pour stimuler la libido, combattre l'endométriose, l'anxiété, la dépression, la prise de poids, conséquence de cette carence organisée. On l'interdit pour des raisons idéologiques d'association de la testostérone à la masculinité, qui repose en réalité sur la nécessité pour la classe dominante de maintenir son joug en produisant et reproduisant des corps plus faibles. On remarquera que pour gaver les femmes d'hormones dites féminines, rappelons que les hommes produisent également des oestrogènes, là par contre plus de limites, les oestrogènes et la progestérone sont les molécules les plus produites et distribuées de toute l'histoire de l'industrie pharmaceutique. » Voilà, je pense que ce petit point était nécessaire.
Ouais. Qui sont connus pour avoir des effets négatifs sur le désir sexuel par ailleurs, donc ça, c'est fou. Et Juliette Drouard renvoie d'ailleurs au livre « Testo Junkie » de Paul B. Preciado, qui explique comment les corps sont modifiés par les médicaments et autres substances chimiques. Et dans ce livre, il explique qu'il s'est appliqué de la testo sur la peau pendant 236 jours comme un geste politique pour dire que son genre n'appartient ni à sa famille, ni à l'État, ni à l'industrie pharmaceutique. Et dans Libé, il a décrit comment la testo l'a rendu lucide, énergique, éveillé. Je cite « comme la première nuit où il a baisé avec une fille ». Et il s'interroge « pourquoi ces effets seraient-ils considérés comme masculins ?»
Ouais, bah en tout cas, moi je veux bien assister à une testo partie et tester. J'espère que ce sera généralisé bientôt.
Il y a une vidéo sur Vice qui parle des apéros testo organisés par Juliette Drouard. Je montre ça, hein. Allez la voir, c'est intéressant. D'ailleurs, en France, on peut rappeler que la commercialisation de patchs de testostérone pour les femmes avait été approuvée pendant un temps, puis suspendue. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de s'en procurer parce qu'il faut s'en faire prescrire et c'est possible uniquement dans un parcours de transition après accord d'un endocrinologue, etc. Donc, c'est pas du tout facile d'accès.
Et là, ce qui a été montré, c'est que le traitement par testostérone, oui, il améliore la libido, le désir, l'activité sexuelle. Et d'ailleurs, il y a eu un traitement par patch qui a été commercialisé exclusivement, avec une autorisation de mise sur le marché uniquement chez les femmes qui avaient une libido en berne après une exérèse des deux ovaires. Mais ce traitement n'est pas commercialisé en France. Pourquoi ? Tout simplement parce que le marché est trop faible pour que ce soit intéressant donc, pour le laboratoire.
Oui, alors la testostérone provoque parfois des effets secondaires comme l'acné, la pousse de poils ou la chute de cheveux. La revue Prescrire parle d'effets indésirables, mais quand on dit indésirable, de qui est-ce qu'on parle ? Est-ce que c'est grave finalement d'avoir plus de poils ? Alors certaines études ont aussi fait le lien entre testostérone et risque d'accident cardiovasculaire sur les hommes, mais sur les femmes, on n'a pas encore vraiment étudié la question et les risques à long terme. Donc je pense qu'il faut s'y mettre. Mais voilà, en conclusion, on peut dire qu'il faut vraiment donner à toutes le choix de la manière dont on veut répondre à une baisse de libido, que ce soit avec un coup de pouce hormonal ou une approche globale, avec un suivi en sexologie ou en psychologie pour peut-être identifier le contexte de troubles du désir. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'accès à la testostérone, c'est vraiment une question d'égalité, en fait, femme-homme. C'est une question de santé publique, c'est une question politique, comme d'habitude. Donc, il est urgent de s'en saisir. Et il faut aussi que les hommes cis se posent la question de leur côté.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut recommander comme lecture ?
Alors, en anglais, donc il y a le livre qui s'appelle « Come as you are » de Emily Nagoski. En France, il y a « Les corps abstinents » d'Emmanuel Richard sur le thème de l'abstinence. Évidemment, le livre de June Pla, « Jouissance Club », adapté du compte Instagram du même nom.
Qui est un petit manuel.
Un petit manuel. Et donc le livre de Maya Mazoret, « Sortir du trou, lever la tête ». Et moi, j'avais lu aussi « Labo sexo » de Elisa Brune, qui est très bien sur les chiffres, enfin toutes les études qui existent. Et évidemment, « Jouir » de Sarah Barmack. Et d'ailleurs, moi, il y avait un truc que j'avais retenu dans « Jouir » de Sarah Barmack, c'est qu'elle disait qu'il y avait un truc, en fait, dans l'expérience des femmes cis sur le désir, c'est que, en fait, parfois, le désir venait après, disons, des caresses, ou disons qu'il y avait plein de femmes qui étaient confrontées au fait que, avant de se caresser ou de passer à un acte sexuel, elles n'ont pas forcément envie, mais que le désir naissait des caresses. Statistiquement, ça se vérifiait beaucoup. Donc, ça pose vraiment question, parce qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut initier quelque chose, initier des caresses pour en avoir envie ? Est-ce qu'il faut se culpabiliser par rapport à ça ? Est-ce que si on sait qu'en faisant tel type de caresses, on va avoir super envie, est-ce qu'il faut s'en priver parce qu'on n'en a pas envie à la base ? Enfin, ça pose plein de questions, en fait.
Enfin, initier des caresses alors qu'on n'en a pas encore envie, pour que l'envie suscite le désir, ou est-ce que c'est le désir qui va susciter l'envie, c'est toujours la question de l'œuf ou la poule, quoi. Et alors, du côté de notre expérience personnelle, qu'est-ce que tu peux nous raconter de ta libido
Oui, donc vaste sujet. Moi, j'ai une libido vraiment débordante, en fait, toute mon adolescence et jusqu'à mes 25 ans environ. Donc,
cool.
On s'est cassé en cours, j'avais envie tous les jours, ça me manquait quand je le faisais pas, j'étais dans une frénésie. Mais j'ai envie de dire qu'avec le temps, le travail, le stress, l'anxiété, les problèmes d'adulte, me too, etc., ça fait beaucoup. Et j'ai une libido beaucoup plus en dents de scie. Et d'ailleurs, je ne comprends pas trop pourquoi. Parce que déjà, bon, j'ai arrêté la pilule très tôt, justement, pour ces questions-là. Et j'ai du mal à savoir, en fait, d'où ça vient. Je pense que c'est vraiment multifactoriel. J'en souffre pas. Je trouve que c'est encore un tabou, cependant. Et je pense qu'avant, en fait, le fait de vouloir séduire à tout prix dopait quelque part ma libido, mais qu'aujourd'hui, en fait, je m'en fous beaucoup plus du regard des hommes et je me sens plus indépendante. Donc, c'est un peu paradoxal parce que cette baisse de libido, disons qu'elle est là. Et en même temps, par exemple, j'ai beaucoup plus de plaisir dans ma vie sexuelle qu'avant. Donc, peut-être que je suis satisfaite globalement, alors je suis moins dans une quête frénétique du Graal de l'orgasme. Et donc, ma libido, en fait, elle est en train de se reconfigurer, je pense, parce que maintenant, je cherche des choses pour m'exciter moi et pas pour exciter les autres. Et je pense que comme on a souvent dépossédé les femmes d'un imaginaire érotique propre, en fait, je suis encore dans l'exploration, je suis en train de me réapproprier cet imaginaire. Et dans la même idée, avant, je regardais du porno mainstream pour nourrir ma libido, mais aujourd'hui, ça me fait quasiment rien, voire ça me révulse. Et en fait, le dernier truc qui a un peu eu un effet sur moi, c'est les podcasts Vox de Olympe de G et Le Son du Désir.
Le train prend de la vitesse et devient plus confortable. Vous êtes en plein milieu du couloir à vous chauffer l'un l'autre ardemment. Je m'approche un peu plus, tout discrètement, afin d'entendre ce que vous vous dites.
Ouais, je suis d'accord. Je trouve que le son du désir, c'est vraiment hyper chaud. Et en plus, c'est un homme qui verbalise ses désirs, donc c'est plutôt chouette. Pour une fois, ça change. Et effectivement, je rejoins ce que tu disais. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple, un couple de deux ou de plus, s'accorder, en fait, sur son niveau de libido ou son niveau de désir quand on est plus qu'une personne. Enfin, déjà, seul, c'est compliqué, mais à deux, en fait, c'est quand même très rare d'avoir exactement les mêmes envies au même moment. Et je trouve que c'est un sujet de négociation qui est très compliqué pour ne pas froisser l'autre personne, ne pas frustrer, mais en même temps, respecter ses propres envies. Voilà, moi j'ai pas trop trouvé de solution à ça, mais je trouve que c'est super compliqué. Et surtout dans la durée, en fait, comment ça se négocie ensemble. Voilà, pour moi c'est une des grandes énigmes de la vie. Mais c'est vrai que de manière plus générale, bah, la libido féminine, c'est un sujet dont on a pas mal parlé dans le livre donc, que j'ai coécrit sur la charge sexuelle. Et la manière dont on voit souvent la sexualité féminine comme étant menaçante. On a parlé du rôle du slut-shaming, on voit aussi que la contrainte corporelle qui est imposée aux femmes est plus grande que celle des hommes. Et moi, je regrette aussi que, encore une fois, que les hommes cis hétéros, hein, bien sûr, en position de rendre leur corps désirable, alors que justement le piquant du couple pèse souvent sur les épaules des femmes qui vont... devoir dépenser en sous-vêtements, en sextoy, penser à des jeux, penser à mettre en scène leur sexualité, etc. pour attiser l'appétit de leur conjoint. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le livre de Sarah Bermack et aussi son TED Talk, puisqu'elle dit que la sexualité féminine n'est pas cassée, contrairement à ce qu'on pense.
The thing is, female sexuality can't be fixed with a pill. That's because it's not broken. It's misunderstood.
Et effectivement, moi, de mon côté, je suis plutôt pour dégenrer la sexualité, c'est-à-dire ne pas trop différencier, pour mutualiser les approches. Mais en même temps, j'ai du mal à concilier ça avec le fait qu'il y a aussi des spécificités féminines et que, c'est ce qu'on a dit avant, en fait, se caler uniquement sur une seule norme qui est le modèle masculin, en fait, ça marche pas. Et forcément, on peut pas comprendre comment fonctionnent les femmes si on considère que la seule sexualité qui fonctionne, c'est la pénétration. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Sarah Bermack. Elle dit qu'on s'est calé sur un modèle de jouissance qui est linéaire, alors que pour les femmes, l'orgasme est plutôt circulaire. C'est-à-dire qu'on peut commencer par un orgasme, on peut en avoir plusieurs. Voilà, le rapport ne s'arrête pas à l'orgasme.
Comment les récits et les scripts mis en avant dans les discours dominants en fait modèlent nos sexualités. Mais moi, je continue de penser que si on avait zéro script, zéro discours, en fait, on serait peut-être beaucoup plus inventif, on serait beaucoup moins à répondre à ces schémas-là, quoi.
Mmh. C'est vrai. Plus de modèles identificatoires, s'il vous plaît.
Oui, des récits alternatifs.
Ouais. Alors, dans le témoignage de cette semaine, c'est Morgane qui nous a parlé de sa libido, de comment elle négocie avec ses baisses de désir, de comment elle s'en est accommodée et comment ça peut être considéré comme un problème.
Personnellement, j'ai toujours eu une libido... plutôt basse, et j'ai l'impression que c'est le cas depuis toujours. Après, je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'ai vraiment du désir sexuel, est-ce que je suis asexuelle ou pas. Après, il y a aussi eu des paramètres un peu extérieurs, comme certains médicaments, les antidépresseurs que je prends, qui peuvent avoir un vrai impact sur la libido, et je l'ai vraiment ressenti. Je pouvais avoir des semaines et des mois sans ressentir aucune envie d'avoir un rapport sexuel. Et globalement, j'ai l'impression que je pourrais m'en passer. Enfin, ça va être vraiment par phase. Je vais avoir des phases où je vais avoir une libido assez forte, mais c'est sur une très courte période. Et sinon, le plus souvent, c'est une libido quasi inexistante. Bah, je suis en couple depuis 3 ans, et c'est vrai que c'est un sujet qui peut un peu créer des tensions, poser problème, etc. Et c'est une problématique que j'arrive pas trop à résoudre. J'ai souvent ressenti de la pression de la part de mon copain pour qu'on ait des relations sexuelles. J'en ai fait part, je lui ai dit que je ressentais une pression. Il s'en est voulu, il s'est excusé, il m'a dit qu'il ne le referait plus. Mais au final, ça revient tout le temps et c'est assez pesant. Ouais, c'est un aspect de la relation qui est parfois un peu pesant. Et du coup, comme je ressentais cette pression, j'ai souvent eu des rapports sexuels où je me suis forcée, en fait. Moi, j'étais pas capable de dire non, où je me disais, bah, ça fait plusieurs fois que tu dis non, faut bien finir par dire oui, ce genre de raisonnement, même si je sais que c'est pas un raisonnement valide et qu'il faut... Ouais, qu'il n'y a pas à se forcer. Bah, dans la théorie, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que dans la pratique, j'arrive pas forcément à l'appliquer. Et ouais, parfois, je me dis que c'est un problème dans le couple, parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. Pour moi, la sexualité, c'est pas nécessairement un aspect prioritaire de la relation, alors que ça peut l'être pour mon copain ou pour beaucoup de personnes. Et au final, même mon entrée dans la sexualité, on va dire, je ne l'ai pas fait sous la contrainte, je n'ai pas été forcée, mais je me suis un peu moi-même convaincue que c'était nécessaire de le faire, de faire comme tout le monde, voilà, d'avoir une vie sexuelle. Mais au final, est-ce que j'en avais vraiment envie ou besoin? C'était plus un besoin de plaire, voilà, qu'un besoin d'avoir une relation sexuelle. C'était plus un... Ouais, c'était pas un vrai désir sexuel pour une personne, au final.
Voilà, merci pour ce témoignage.
Le moment
pop culture.
Pop culture.
Alors, donc, cette question de la libido, elle est assez mal représentée en images, je trouve, hein, notamment sur le sujet de la baisse de libido. Et les réalisateurs préfèrent parler de l'addiction sexuelle, par exemple, sujet un peu prolifique, ou des infidélités en réponse à la décadence du couple dans les films. Donc là, je parle plutôt des comédies un peu traditionnelles. Mais le sujet en lui-même, donc, de cette baisse de libido, il est peu adressé, j'ai l'impression, peut-être parce que considéré comme pas sexy. Donc, soit on va avoir des personnages de femmes assoiffées de sexe qui vont être sexualisées au passage, soit des couples très normés à la dérive qui vont trouver du réconfort dans une aventure. Et en dehors de ça, il n'y avait pas grand-chose dans les films, enfin, comédies un peu américaines traditionnelles, blockbuster, quoi.
Ouais, heureusement, il y a des exceptions... Notamment en France, chez des réalisatrices, on peut citer le film Une fille facile de Rebecca Zlotowski qui est sorti l'année dernière.
Moi, l'amour, ça m'intéresse pas. On doit tout provoquer par nous-mêmes.
Avec Zaya Dehar qui met vraiment en scène le désir féminin et ce qu'on appelle la promiscuité et qui est vraiment un film héritier de La collectionneuse d'Éric Rohmer. Et moi, je me souviens aussi d'une scène qui m'avait pas mal marquée dans le film Bande de filles de Céline Sciamma, où la jeune héroïne qui est noire regarde son copain dormir nu, de dos. Enfin, c'est vraiment un plan de regard désirant de femme, parce que en tout cas, on filme assez peu les hommes hétéros cis nus, donc c'est un très beau female gaze.
Oui, c'est vrai que parfois ça va se loger dans certains plans comme ça. Heureusement, il y a quand même certaines productions qui en ont fait effectivement un vrai sujet. Par exemple, j'ai pensé à la série I Love Dick, qui retrace l'obsession d'une femme jouée par Catherine Hahn pour un homme. Et pour le coup, ça parle vraiment de sa fantasmagorie, de sa libido, etc.
Dear Dick. How do we not know each other before now?
Et sinon, il y a la série Wanderlust avec Toni Collette sur Netflix.
More sex with me?
Do you want to have sex with me?
Il y a des scènes de tentatives de sexe d'un vieux couple alors que plus personne n'en a envie. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, ils arrivent à se le formuler. Ça, j'avais rarement vu ça. Mm. Ils vont se redécouvrir dans l'ouverture de leur mariage avec des amants.
Mais elle est psy aussi, non, c'est ça?
Elle est psy également, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est discuté tout du long.
Ouais.
Et donc ça vraiment, j'avais rarement vu ça.
Bah, c'est la solution, hein, la communication. On en a déjà parlé plein de fois dans d'autres épisodes. Voilà, cette idée du backlash dans la pop culture avec le personnage de célibataire émancipé, donc assoiffé de sexe, qui sera puni par la fiction, qui va connaître une fin tragique. Voilà, tout ça, c'est encore une forme de mise en garde et de rappel à l'ordre. Moi, j'ai l'impression que la pop culture a souvent montré la sexualité féminine comme étant monstrueuse, ce qui est aussi une forme de mise en garde. On se souvient du phénomène vagina dentata dans le film Teeth.
I think there might be something weird going on inside.
What do you put in here?
Donc un vagin avec des dents. On peut aussi citer le personnage de démon lubrique qui est joué par Sigourney Weaver dans SOS Fantôme, Zool.
Take me now, sub creature.
We never talk anymore.
Un personnage très drôle. Et de manière générale, les femmes au cinéma forniquent souvent avec des monstres. De La Belle et la Bête à Twilight, en passant par le film plus récent La Forme de l'eau.
Quand il me regarde, il ignore en quoi je suis incomplète. Il me voit tel que je suis.
Je trouve ça intéressant de le souligner. Il y a aussi la question de l'âgisme, puisque les femmes d'un certain âge qui font l'amour sont assez invisibles sur les écrans.
Oui, c'est clair, et la question de leur désir est souvent invisibilisée. Donc moi, j'avais envie de citer le long métrage d'Olympe de Gé une dernière fois, avec Brigitte Lahaie dans le rôle titre.
Une dernière fois pour toi, c'est important? Et tu dirais que ça se prépare comme une première fois, par exemple?
Je trouve ça injuste qu'on attache autant d'importance à nos premières fois et puis toute notre dernière fois, elle nous passe sous le nez.
Diffusé sur Canal+, qui, je pense, est un tournant, en fait, dans les représentations porno-érotiques, parce que c'est un film porno-érotique. C'est l'histoire d'une femme de 69 ans qui a programmé sa mort et aussi sa dernière fois. La dernière fois qu'elle fera l'amour, et qui parle de ses émois et des mécanismes de son désir, en fait, entre deux scènes de sexe. Et c'est vraiment c'est très très beau, et même assez révolutionnaire. Et j'étais même, charmée, en fait, par le jeu de Brigitte Lahaie, qui est extrêmement intéressante dans ce film.
Oui, donc on peut le revoir en ce moment sur Canal+, donc allez-y. Ouais. Moi, je pense qu'il faut aussi parler un petit peu de l'éducation sexuelle, notamment pour les jeunes filles, et je ne recommanderai jamais assez la série Big Mouth. Sur Netflix, parce que je trouve qu'elle rétablit très bien l'équilibre et l'égalité, puisque les garçons comme les filles ont chacun leur propre monstre hormonal qui fait jaillir le désir, en tout cas à des moments totalement inopportuns, et qui l'incarne vraiment visuellement. Et ça, c'est une trouvaille, je trouve, très intéressante. Il y a aussi la série américaine Pen 15.
We should make a pact. Let's like do everything together.
Yeah, no doubt, like all our first together, like our first kiss.
Qui va être diffusée sous peu sur Canal+. Donc Pen 15, en fait, ça veut dire pénis. Voilà, quand on le lit de gauche à droite. Et c'est une série dans laquelle les deux protagonistes adultes jouent leur rôle enfant. Donc en fait, elles jouent entourées d'adolescents, ce qui crée vraiment un certain malaise. Et dans un épisode, l'une d'elles découvre la masturbation. Et donc elle commence à se toucher de manière obsessionnelle, elle y pense tout le temps, en classe, dans son placard, voilà. C'était un peu toi avant, Pauline. C'est-à-dire, c'est exactement ce que font les garçons dans les films de Judd Apatow. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme recommandation culturelle cette semaine, Pauline, pour rester dans le thème?
Oui, je voulais recommander le film documentaire Mon nom est Clitoris.
Moi, je dirais les premières sensations, c'était en primaire. À la piscine.
C'est un film belge de témoignages sur la sexualité qu'on pourrait juger au premier abord un peu déjà vu, mais en vrai, il est assez touchant dans ce qu'il laisse se déployer, en fait, les récits de femmes sur leur rapport au sexe, et c'est assez intéressant. Et ça parle pas que de sexualité hétérosexuelle, ça parle aussi de sexualité lesbienne, de porno, de masturbation. Donc c'est un film de Daphné Leblond et Lisa Billuard-Monet, qui est sorti en France le 22 juin. Et toi, Clémentine?
Oui, alors moi, c'est une BD, ça tombe bien, sur les tabous autour de la transmission du savoir sexuel qui se passe dans une famille bourgeoise, blanche et catholique. On la doit à l'autrice Florence Dupré-Latour, qui avait déjà écrit sur son enfance une BD qui s'appelait Cruelle. Donc là, la nouvelle BD s'appelle Pucelle. C'est donc un récit d'enfance autobiographique. Et en fait, elle explique comment toutes les informations qu'elle reçoit vont se mêler dans sa tête d'enfant. Donc quand on lui explique jouer à la petite graine, elle voit des publicités pour des tampons, elle entend des prêches à l'église sur les prostituées, la prostitution. Et voilà, et elle s'interroge. Et on lui cache longtemps la vérité. Donc je vous le conseille, c'est publié chez Dargo et c'est le tome 1.
Allô, allô.
Allô, monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute?
Alors, on nous a envoyé cette question. Comment avez-vous commencé le podcast?
Oui, alors cette semaine, c'est pas une question pour vous venir en aide, mais effectivement, peut-être que certains auditeurs et certaines auditrices se posent la question, qui est pertinente si vous ne suivez pas depuis le début de ce podcast. Alors, à l'origine, Quoi de Meuf, c'était une newsletter sur le genre et la pop culture qui était envoyée tous les dimanches et qu'on a lancée en janvier 2017 avec une amie à l'époque qui était Mélanie Wanga. Cette newsletter a très bien marché. marché à l'époque. Et quand le studio Nouvelles Écoutes s'est lancé, il et elle nous ont proposé de transformer cette newsletter en talk show et donc en podcast. Et ça, c'était en octobre 2017, donc pile au moment de MeToo. C'était évidemment pas prévu. Voilà, le timing a été assez providentiel, en tout cas pour les questions de genre. Et voilà, depuis, la newsletter a cessé d'exister. Mélanie est partie dans d'autres aventures et de super chroniqueuses l'ont remplacée, comme toi, Pauline. Voilà, vous savez tout. En tout cas, c'est tout pour cette semaine. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Vous pouvez nous écrire pour nous parler de libido, de testostérone sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aidera à être référencés. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court dans lequel on parlera de la stand-upeuse Anna Gadsby. Salut, merci Pauline.
Salut Clémentine.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu et présenté par Clémentine Gallo
et Pauline Verbusier.
Mixé par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, montage et coordination Ashley Tola.